Des combats ont éclaté cette semaine dans l'est de la République démocratique du Congo, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, le chef-lieu de la province troublée du Nord Kivu. L'armée congolaise et les rebelles du mouvement dit du 23 mars, le M23, se battent, semble-t-il, sur plusieurs fronts, forçant les populations à partir. C'est un différend de plus d'une décennie qui oppose ce groupe armé aux forces loyalistes. Kinshasa l'accuse régulièrement d'être soutenu par le Rwanda voisin. Ces nouveaux combats peuvent-ils mettre en péril les négociations entre gouvernement et groupes rebelles qui se tiennent justement depuis quelques semaines sous médiation kényane? Bonjour Christophe Vogel.
Bonjour.
Merci beaucoup, monsieur, d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'auteur du livre Conflict Minerals Incorporation qui vient de paraître en mai dernier. Vous êtes par ailleurs le directeur du projet Insecure Livelihoods, qu'on pourrait traduire par moyen de subsistance précaire, à l'université de Gand en Belgique. Alors pour commencer très simplement, qu'est-ce que ce mouvement rebelle, le M23, et en quoi s'oppose-t-il aux autorités congolaises ?
Alors le M23, le mouvement du 23 mars, c'est un des différents groupes armés qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est un mouvement qui s'est créé en référence à un ancien accord de paix qui a été signé un certain 23 mars 2008. Et ce mouvement s'est créé en 2012 en fait en réaction à ce que ses membres et ses fondateurs ont considéré justement une non-application d'un ancien accord de paix entre le gouvernement et des rébellions antérieures qui ont opéré à l'est du Congo.
C'est-à-dire qu'il leur avait été promis pendant cet accord de paix d'intégrer l'armée congolaise par exemple, et que eux soutiennent que finalement cette main tendue n'a pas été suivie d'effet.
Exactement. Par contre, il faut dire que il y a eu depuis ce qu'on appelle les grandes guerres du Congo, donc la guerre de l'AFDL qui a amené au pouvoir Laurent Désiré Kabila en 97, et la guerre suivante qui a justement posé des nouveaux groupes rebelles à Laurent Désiré Kabila par la suite entre 98 et 2003. Il y a eu tout un tas de différents accords de paix, à la fois entre les pays de la région, mais aussi entre le gouvernement et différents groupes armés qui opposent Kinshasa. Donc on est sur tout un historique assez difficile de négociations, d'accords qui ont été en partie appliqués, qui ont prévu l'intégration parfois entière ou parfois partielle de différentes forces belligérantes. Ce qui crée sur le dos d'une trentaine d'années d'hostilité, de conflit, une situation assez complexe aujourd'hui.
C'est-à-dire que fin 2013, à Nairobi, donc au Kenya, parce que le Kenya se pose toujours en médiateur de cette crise, le M23 et la République démocratique du Congo, les autorités congolaises avaient signé des engagements, notamment pour ouvrir la voie au rapatriement de la plupart des combattants du M23 pour leur réinsertion dans la vie civile. Encore une fois, cette opération, d'après les rebelles du M23, n'a jamais connu d'avancée significative. Est-ce que c'est toujours ce grief-là qui maintient le M23 dans la posture de rebelle et qui a déclenché les toutes récentes attaques de cette semaine dans le Nord Kivu? D'ailleurs, est-ce qu'on sait si c'est lui qui a tiré le premier?
Alors, les revendications officielles du M23 sont assez diversifiées, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait différent pour d'autres groupes armés ou pour la majorité des autres groupes armés qui existent aujourd'hui en RDC. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, en fait, le M23 est souvent considéré une rébellion entre guillemets Tutsi, ce qui est déjà un peu problématique parce que c'est pas non plus 100% correct. Il y a beaucoup d'acteurs différents qui font partie de ce mouvement, mais c'est qui est vrai que la position de certaines communautés au Congo était plutôt marginale, dont celle des Tutsi congolais ou aussi des Banyamulenge en province voisine du Sud Kivu, qui sont souvent considérés comme soit des alliés ou la fameuse cinquième colonne du Rwanda, parce qu'il y a eu des interventions dans le passé où des groupes armés dirigés par des Tutsis ont collaboré avec le Rwanda, notamment dans la deuxième guerre du Congo. Mais de l'autre côté aussi, cette communauté a fait face à une marginalisation et beaucoup de menaces notamment leurs membres civils. Donc on a toute une situation assez difficile entre rébellion et marginalisation, à la fois politique, sociale et économique, mais aussi des positions xénophobes contre cette communauté parmi les autres communautés, ce qui a rendu la situation très tendue depuis très longtemps. Maintenant, pour l'instant, c'est assez difficile à dire qui a recommencé ou qui a commencé les hostilités, parce que là, depuis l'accord de paix qui aujourd'hui on peut considérer échoué de l'époque en 2013, une partie du mouvement était retournée sur le sol congolais depuis fin 2016, début 2017, où il y a eu quelques incidents. Ensuite, ça s'est un peu endormi. Et là, on est dans une dynamique d'escalade, entre guillemets, depuis octobre, novembre de l'année passée, avec des petites attaques, des petits combats, des petits raids depuis plusieurs mois, où je suis assez sûr qu'il y a certains moments où c'est l'armée congolaise qui a fait le premier pas et l'autre moment c'est le M23 certainement qui a lancé les attaques.
Ouais, donc tout ça est très confus. Ce qui est sûr, c'est que ces combattants du M23 sont sortis de leur bastion d'altitude où ils étaient revenus depuis donc leur retour il y a quelques années. Quelle est sa force de frappe du M23? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il pèse aujourd'hui face à l'armée congolaise?
Alors dans la globalité, c'est un mouvement qui est plutôt petit comparé à l'armée nationale qui reste quand même de loin l'acteur le plus large en RDC. Néanmoins, il faut dire qu'on se trouve notamment en province du Nord Kivu et en province voisine de l'Ituri, au nord encore du Nord Kivu. On se trouve dans ce que le gouvernement appelle l'état de siège. C'est une mesure politique prévue justement pour transférer le pouvoir à l'armée. Ce qui fait qu'on a deux provinces, en fait c'est l'armée qui gouverne, justement avec comme but d'affronter, de combattre les groupes armés. Cela a été assez difficile pour les forces armées de la République démocratique du Congo, parce que on ne parle pas seulement du M23, il y a des théâtres d'opérations et d'hostilités qui sont en amplitude presque plus importante. On pense notamment à la partie nord du Nord Kivu, où l'armée fait face aux rebelles des ADF, mais aussi en Ituri, où il y a tout un regroupement de différents groupes armés connus sous le nom de Codeco et d'autres groupes armés qui commettent des attaques très régulières. Donc en fait, cette armée a beaucoup de travail, beaucoup d'adversaires, ce qui fait qu'un mouvement qui est comparativement assez petit, bien organisé, mais assez petit, réussit quand même de mettre en difficulté de temps en temps l'armée congolaise.
Et puis qui arrive à un moment, ces attaques du M23, un moment très... Enfin, on a bien compris ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours dans quelle mesure qui a tiré le premier, mais ces attaques interviennent à un moment particulier, parce que des discussions sont en cours depuis un bon mois maintenant à Nairobi, la capitale du Kenya, à l'hôtel Safari Park de Nairobi, entre l'État congolais et des représentants de groupes armés actifs dans l'est du pays, parce qu'il y en a plusieurs. Le M23 est loin d'être le seul, comme vous le rappeliez, Monsieur Vogel. Donc, comment ont été à Nairobi appréhendées ces attaques? Comment ont réagi ceux qui essayent aujourd'hui de négocier un semblant de paix avec les autorités congolaises quand ils ont appris que des attaques avaient éclaté?
Alors ça, c'est assez intéressant parce que le moment où les réunions, les pourparlers de Nairobi ont commencé, on était déjà dans cette phase où l'intensité des combats, des confrontations était assez élevée. Donc il y a toute une série d'attaques et de confrontations qui a commencé vers fin mars, or que les pourparlers ou les négociations de Nairobi ont commencé fin avril. Donc quelque part, on était déjà dans une situation où il y avait des fortes tensions. En même temps, l'adhésion de la République démocratique du Congo à la East African Community a eu lieu. Et il semble que c'est justement cette adhésion, ce moment de diplomatie régionale qui a poussé l'organisation de la part du Kenya aussi de cette négociation. De plus, il faut dire que c'est des négociations où c'est très difficile de comprendre quels sont les critères pour être invité. Il y a eu des plaintes de certains groupes armés qui n'étaient pas invités à ces négociations. Il y a des rapports, des informations sur d'autres groupes qui n'existeraient pas effectivement sur terrain en RDC, mais qui auraient envoyé des délégations politiques. Donc tout cela est aussi en partie un peu flou. Mm. Et notamment, justement, cette situation permet bien sûr aussi à certains acteurs, certains groupes armés, de justement questionner toute la légitimité de ces efforts.
Et la légitimité aussi du M23, puisque beaucoup de groupes armés congolais accusent le M23 d'être des envahisseurs étrangers, des non-congolais, des ennemis. Cette rhétorique que vous avez commencé à soulever tout à l'heure et qu'on pourrait développer pour conclure cette émission, Christophe Vogel, la rhétorique de dire que le M23 est soutenu par l'extérieur, est soutenu par le Rwanda, sous prétexte qu'il est issu d'une ancienne rébellion Tutsi congolaise, jadis soutenue par le Rwanda. C'est vrai, on sait que le président aujourd'hui, Paul Kagame, est issu de la communauté Tutsi rwandaise, cette communauté largement exterminée en 1994 dans le Rwanda. Au Rwanda, qu'est-ce qu'on peut dire exactement? Est-ce que le M23 est vraiment cette cinquième colonne du Rwanda, comme on l'en accuse? Qu'est-ce qui est avéré?
Ça, c'est une question qui est presque impossible à répondre de manière claire et rapide, parce que d'un côté, pour commencer, il faut dire si on cherche la responsabilité pour ce souci, il faut d'abord aussi commencer par la répartition et colonisation africaine qui à la frontière entre le Rwanda et le Congo, comme dans beaucoup d'endroits ailleurs, a justement mis en place des lignes assez arbitraires qui justement mènent à des situations où il y a plein de communautés, plein de gens qui restent jusqu'à aujourd'hui séparés par ces décisions prises il y a 140, 150 ans. Deuxièmement, il faut dire, oui, le M23 et ses prédécesseurs ont des liens avec le Rwanda. Par contre, pas seulement avec le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda qui joue un rôle. De même, parler d'une cinquième colonne est simpliste, voire un peu erroné, dans le sens que entre le M23, aujourd'hui, autant qu'en 2012-13, où le mouvement avait réussi à conquérir la ville de Goma pendant une courte période, donc, entre le M23 et le Rwanda, il y a aussi beaucoup de tensions. Les objectifs du Rwanda sont certainement pas toujours les mêmes que ceux du M23. Ils peuvent converger, ils peuvent avoir des situations où on se met d'accord sur certains points, mais en même temps, il y a des fortes frictions et tensions aussi. Donc, c'est pas si simple que ça. Et donc, je pense que c'est un peu... Ça s'inscrit un peu dans la dynamique aussi plus large où aujourd'hui on voit en RDC que entre groupes armés, entre populations, gouvernements, entre d'autres acteurs, il y a des sujets qui créent certaines alliances ou certains accords entre certains et d'autres qui créent des fossés ou des mésententes sur d'autres sujets. Mm. Et je pense que le M23 ne doit pas forcément être vu comme un exemple très très spécial, parce que quelque part les dynamiques que l'on voit se reflète aussi dans d'autres dynamiques de conflits qu'on voit dans la région.
Merci beaucoup Christophe Vogel d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Conflict Minerals Incorporation, donc qui a été publié en mai. Je rappelle que vous êtes directeur du projet Insecure Livelihoods à l'université de Gand.
France Culture, l'esprit d'ouverture.